Les aventures de Todd Marvel, détective milliardaire, de Gustave Lerouche. Premier épisode, le secret de Wang Tai. Chapitre 1er, la Signora Ovando. Fiévreusement, presque brutalement, une jeune femme en deuil se frayait un passage à travers la cohue bigarrée de ce curieux quartier de San Francisco qu'on appelle le Faubourg d'Orient. Les yeux brillants de fièvre, la face crispée par l'expression d'un désespoir immense, elle allait droit devant elle, sans un regard pour cette foule tourbillonnante où dominaient les Chinoises et les indigènes des archipels océaniens, aux parures de coquillages, aux vêtements éclatants et bizarres. Arrivée enfin dans une rue presque déserte, la jeune femme ralentit le pas, secoua d'un geste rapide la poussière qui s'était attachée au bas de sa jupe, remit un peu d'ordre dans les boucles de sa chevelure d'un noir profond et tamponna d'un petit mouchoir de soie ses yeux rougis par des larmes récentes. Elle s'était arrêtée comme hésitante en face d'une spacieuse maison à 3 étages, entièrement constituée, comme beaucoup d'édifices bâtis après le dernier tremblement de terre, par des poutres d'acier et des briques.
« Pourvu !» murmura-t-elle le cœur serré, « qu'on ne me ment pas trop cher !»
Elle ajouta en soupirant,
« Et que cela serve à quelque chose !»
Avec une brusque décision, elle ouvrit la grille qui donne accès dans une avant-cour ornée de géraniums et de jasmin de Floride, et sonna une porte dans laquelle était encastrée une plaque de nickel avec cette inscription en gros caractères. John Jarvis, Private Detective. Elle fut introduite par un noir dans un salon d'attente sévèrement meublé de chêne et dont les fenêtres donnaient sur un vaste jardin. Une sorte de géant blond, à la physionomie souriante, aux yeux bleus pleins de candeur, vint à la rencontre de la jeune femme et lui indiqua un siège. Il parut vivement frappé de l'expression douloureuse qui se reflétait sur le visage de la visiteuse, et aussi de la beauté de celle-ci. Ses traits brunis par le soleil offraient une régularité parfaite. Ses mains tigrées de hâle étaient d'un modelé délicat, et le méchant costume de confection dont elle était vêtue accusait des formes élancées, une taille mince et ronde, des hanches harmonieuses et larges, toute la plastique splendide des femmes de sang espagnol, si nombreuses en Californie. De son côté, la visiteuse ne s'était nullement représentée un détective de cette mine débonnaire et joviale. Il y eut quelques minutes d'un silence embarrassé.
« Vous êtes Monsieur John Jarvis ?» demanda-t-elle enfin.
« Non, signora. Simplement son secrétaire et parfois son collaborateur. Mais puis-je savoir ce qui vous amène ?»«
Je suis au désespoir, » balbutia-t-elle, avec accablement. « Il y a 8 jours, mon mari était vivant. » Nous étions presque riches. Maintenant, je suis veuve et nous sommes ruinés. Ma petite Lolita, qui va sur ses 9 ans, sera sans pain et sans asile. »
Elle fondit en larmes, incapable d'en dire davantage. Le secrétaire du détective paraissait presque aussi ému que sa cliente.
« Ne vous désolez pas, » dit-il affectueusement. « Si quelqu'un peut apporter remède à votre situation, c'est bien M. Jarvis. »
Il ajouta dans un élan de réelle admiration.
« Ne crois pas qu'il y ait un homme plus habile dans l'univers entier. »«
Il veut sans doute des honoraires très élevés ?» demanda-t-elle anxieusement.
« Soyez sans inquiétude à cet égard. Monsieur Jarvis n'est pas un détective ordinaire. Il ne réclame d'argent qu'en cas de succès. Et ses prétentions sont toujours proportionnées à la fortune de ses clients. Mais vous allez lui parler immédiatement. Vous verrez que du premier coup, il vous inspirera confiance. Qui dois-je lui annoncer ?»
« La signora Pepita Ovando, la veuve Ovando, hélas !» fit-elle avec une tristesse poignante. Au moment où elle se levait pour passer dans la pièce voisine, à la suite du secrétaire, elle entendit le bruit sec d'un déclic et aperçut dans la muraille en face d'elle une ouverture ronde, cerclée de métal, qui ne s'y trouvait pas l'instant d'auparavant.
« Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-elle avec méfiance.
« Ne craignez rien. Monsieur Jarvis, par mesure de prudence, a l'habitude de faire photographier toutes les personnes qui pénètrent dans son salon d'attente. C'est sur son conseil que la Central Bank en fait autant, pour tous ceux qui viennent toucher un chèque de quelque importance à ses guichets. »
Cette simple précaution a déjà donné meilleurs résultats. »
Un peu inquiète, la señora Ovando pénétra dans une immense pièce qui ressemblait beaucoup plus au laboratoire d'un savant qu'au cabinet d'un homme d'affaires. De hautes bibliothèques voisinaient avec des armoires de produits chimiques, des appareils pour la télégraphie sans fil et les rayons X, un gros microscope et jusqu'à une petite forge mue par l'électricité. Dans un coin se dressait un grand miroir dont le cadre de porcelaine était hérissé de fils de cuivre qui allaient se perdre dans la muraille. Ce bizarre décor impressionna vivement la señora. À la vue de ces machines dont l'usage lui était inconnu, une étrange appréhension s'emparait d'elle. Elle regrettait presque d'être venue. Elle eut un instant l'impression de sentir planer sur elle de mystérieux dangers. Ce ne fut qu'à force de bonnes paroles que M. Jarvis parvint à la rassurer. Le détective, qui paraissait posséder à un degré extraordinaire le don de la persuasion, était un jeune homme de haute taille, à la physionomie pleine de mélancolie et de douceur. Le front élevé, couronné de cheveux bruns, les yeux noirs pleins de franchise, le menton énergique et la mâchoire un peu carrée des anglo-saxons, il inspirait confiance à première vue. La señora Ovando fut étonnée de trouver en lui une courtoisie raffinée, une élégance native de manière qui ne pouvait appartenir à un vulgaire policier. Mais en dépit de cette exquise politesse, de cette douceur apparente, elle remarqua qu'il savait, sans élever la voix, donner à ses phrases un ton de commandement qui n'admettait pas de réplique. « Señora, dit-il après avoir fait asseoir la jeune femme en face de lui, je vous écoute avec la plus grande attention. Pour que je puisse vous être utile, il est nécessaire que je connaisse les faits dans le plus minutieux détail. »
« Ce ne sera ni long ni compliqué, répondit-elle. Je me suis mariée il y a 10 ans, et jusqu'à la catastrophe qui vient de me frapper, nous avions été parfaitement heureux. Avant de m'épouser, mon mari avait amassé une petite fortune en travaillant au Mexique, dans les mines d'or. Avec une partie de son argent, il acheta un grand terrain à 6 miles de Frisco et fit construire la petite ferme que nous habitons et qu'on appelle la Fazenda des Orangers. Malheureusement, tout cela n'est pas entièrement payé.
Et c'est sans doute, interrompit le détective, la somme que vous destiniez à parfaire ce paiement qui vous a été dérobée.
Hélas, oui, $3,000 exactement. Mais si ce n'était que cela. Mon mari avait rapporté du Mexique une pierre de grande valeur, un diamant rouge, rouge comme un rubis.
Ce sont les plus rares. Un diamant pareil, s'il est sans défaut et d'une certaine grosseur, possède une valeur énorme. Comment votre mari ne songea-t-il pas à le vendre pour se faire de l'argent comptant?
Il avait ses idées là-dessus. Il prétendait qu'avec le temps, le prix d'une pareille pierre ne pourrait qu'augmenter. Il faut vous dire que le diamant est gros comme un petit œuf de pigeon et d'une eau irréprochable. « Ce sera la dot de notre Lolita, » répétit-il souvent.
La señora s'interrompit. Ses yeux étaient baignés de larmes. « Du courage, » lui dit affectueusement M. Jarvis. « Je sais combien tel récit doit vous être pénible. »
L'argent et le diamant, reprit-elle avec effort, étaient enfermés dans un petit coffre-fort d'acier, scellé dans le mur de la chambre à coucher, et que nous restions parfois des semaines sans ouvrir, quand mardi dernier, il y a exactement 4 jours, nous trouvâmes notre trésor disparu.
Il n'y avait pas eu d'effraction ? Demanda le détective.
Aucune. Même tout était en ordre dans le coffre. Seulement le diamant et les 3 billets de $1,000 s'étaient envolés. Mon mari était consterné. Après avoir fait inutilement les recherches les plus exactes, il porta plainte au coroner du district, qui ne fut pas plus habile que nous à découvrir un indice quelconque.
Vous ne soupçonnez personne ?
Personne ? Le pays de ce côté est tranquille. Nous connaissons tous nos voisins, et d'ailleurs, ils ne nous font visite que très rarement. Nous n'avons pour tout domestique qu'un Chinois, Wang Tai, un homme de confiance, employé à la Fazenda depuis 4 ans, et qui m'est tout dévoué.
A-t-il été interrogé ?
Oui, et on l'a même scrupuleusement fouillé. Sur sa demande, on a examiné avec le plus grand soin la chambre qu'il occupe à côté de l'écurie. Je répondrai de Wang Tai comme de moi-même. D'ailleurs, il n'est jamais à la maison. Il travaille toute la journée dans la plantation. Et il a en nous une telle confiance que, la plupart du temps, c'est moi qu'il cherche d'expédier dans son pays, par la poste, les petites sommes qu'il arrive à mettre de côté.
La señora Ovando s'était arrêtée sous le coup d'une intense lassitude
plus morale encore que physique. Visiblement, ce récit de ses malheurs lui était un torturant supplice. Ce gentleman, si correct, aux mains si blanches, aux ongles polis comme des agates, en saurait-il plus que le coroner? Au fond, elle ne le croyait pas. Mais il fallait qu'elle allât jusqu'au bout de son douloureux récit. N'était-elle pas venue pour cela? Les sourcils froncés, le regard vague, John Jarvis réfléchissait avec une intensité, une concentration de sa pensée, qui à des regards inattentifs, eût pu passer pour la rêverie d'un homme distrait. Dans le silence, on perçut le grincement léger d'un stylographe courant sur le papier. Dans un coin, le géant blond prenait des notes. « Qu'importerait ce vol sans la mort du pauvre Léoncio, de mon cher époux mille fois aimé ?» reprit tout à coup la jeune femme d'une voix rauque, les mains jointes, dans un geste de désespoir. « On l'a tué ?» fit le détective à demi-voix. « Non, répliqua-t-elle, pas cela. Un accident, une fatalité. Aussi, j'avais été trop heureuse. Le malheur nous guettait. Il fallait que cela se produisît. Hier matin, il descendit de très bonne heure, comme de coutume pour faire le tour de la plantation. C'était par là qu'il commençait sa journée. Une heure après, je le retrouvai mort dans l'écurie, sur la litière de paille de maïs, à côté du cheval, qui, d'un coup de pied, lui avait ouvert le crâne. » Le détective était puissamment intéressé par l'exposé de la malheureuse veuve, si poignant dans sa simplicité. « C'est un cheval vicieux ? » interrogea-t-il. « Aucunement. Nero est la bête la plus douce qui soit. Je n'ai pas compris. Il y a dans cette série de catastrophes quelque chose de mystérieux et de vraiment diabolique. Dans le premier moment, j'étais si désolée et si furieuse que je voulais abattre moi-même le cheval assassin. C'est le coroner qui m'a empêchée. »
« Il a bien fait, » dit gravement John Jarvis. « Et, naturellement, il a conclu à un simple accident. »«
Il lui était difficile de faire autrement. Les pieds de Nero étaient encore barbouillés de sang. Malgré tout, ce qui s'est passé reste inexplicable pour moi. »« Il me reste à vous dire que le propriétaire auquel nous devons encore 3 000 $ ne serait pas fâché de reprendre son terrain avec les plantations qui nous ont coûté tant de peine et tant d'argent. Si je ne paie pas à l'échéance, il ferait un procès et comment veut-on que je paye? Je ne possède plus rien. »
Il faut que vous ayez une aveugle confiance en moi, déclara John Jarvis avec autorité. J'arriverai à retrouver vos voleurs.
Oh, si vous pouviez dire vrai,
balbutia-t-elle en tournant vers lui, ses beaux yeux chargés de muettes supplications.
Je vous répète qu'il faut me faire confiance, dit-il en dissimulant la profonde émotion qu'il ressentait. Et d'abord, j'ai encore des questions à vous poser. Quand vous vous êtes aperçu du vol, pourquoi ce jour-là, plutôt qu'un autre, avez-vous eu l'idée d'ouvrir le coffre-fort?
C'est vrai, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. D'ordinaire, nous nous levions dès l'aube, mon mari et moi. Ce jour-là, nous ne nous sommes réveillés qu'à 10 heures passées, et ma petite Lolita, dont le lit est dans notre chambre, a dormi d'un sommeil de plomb jusqu'à midi. Une fois habillée, elle s'est plainte d'un violent mal de tête. Elle prétendait que l'atmosphère de la chambre était imprégné d'une drôle d'odeur de pharmacie.
Vous n'avez donc pas senti cette odeur ? Demanda le détective avec surprise.
Si, mais nous l'avons expliqué tout naturellement. Je vous ai peut-être dit qu'à la fazenda, nous ne cultivons que des orangers et des citronniers. Et précisément, la veille, nous avions emmagasiné une grande quantité de fruits dans une resserre qui communique avec notre chambre. Réunis en grand nombre, les oranges, vous le savez, dégage un violent parfum d'éther. C'est à ces émanations que nous avons attribué notre sommeil prolongé et l'odeur de pharmacie dont s'est plainte Lolita.
C'est possible, après tout, murmura le détective devenu pensif.
L'écorce des oranges contient une certaine quantité d'un éther spécial.
Et pourtant, si cette explication était la bonne, le même fait aurait dû se reproduire chaque fois que la resserre était pleine de fruits.
Le fait ne s'est produit pourtant que cette seule et unique fois, avoua la jeune femme. Un autre détail que j'avais oublié. La fenêtre de la chambre, que j'avais fermée la veille à cause de la fraîcheur de la nuit, était entr'ouverte quand nous nous sommes réveillés.
Le vent a pu l'ouvrir si elle était mal fermée.
C'est ce que nous avons pensé. Sur le moment, nous n'y avons attaché aucune importance.
Bon, mais vous ne m'avez pas encore dit pourquoi vous avez ouvert le coffre-fort.
C'est moi qui en ai eu l'idée. En me levant, j'avais comme le pressentiment d'une catastrophe. Je m'étais éveillée la tête lourde après une nuit de cauchemar.
Sans savoir pourquoi, j'avais le cœur serré par l'angoisse. On eût dit que je sentais venir le malheur qui planait sur notre maison. « Tu vois, » dis-je à mon mari, « la fenêtre est ouverte. Regarde comme il serait facile de nous voler. » Il voulut me rassurer, me montra le trousseau de clés qu'il plaçait chaque soir sous son chevet, à côté de son Browning, et, pour me tranquilliser tout à fait, il finit par ouvrir le coffre-fort. C'est alors que nous constatâmes le vol. John Jarvis s'était levé brusquement. « Je vais me rendre immédiatement avec vous à la fazenda, » déclara-t-il. « Quel malheur que vous ne soyez pas venu me trouver plus tôt. Un dernier renseignement. Quand a lieu l'inhumation de votre mari ?»«
Demain matin. »
« Ça suffit. Je vous emmène dans mon auto. Je vous recommande surtout, quand nous serons là-bas, de ne pas dire qui je suis. Racontez, si vous voulez, que je suis venue pour acheter la propriété. Mon secrétaire et ami, M. Floridor Kennel, sur la discrétion et le dévouement duquel je puis entièrement compter, nous accompagnera. » Le géant blond auquel ce compliment était adressé quitta le bureau sur lequel il venait de sténographier toute cette conversation. « Je peux peut-être fournir un renseignement intéressant, » dit-il. « Ce matin, de très bonne heure, un peu après l'ouverture des portes, j'étais à la Central Bank. Les bureaux étaient à peu près déserts. Un Chinois est venu toucher à la caisse un chèque assez important. Le fait m'a d'autant plus frappé qu'il est très rare que les Chinois s'adressent à la banque et préfèrent confier leur argent à l'administration des postes ou aux changeurs usuriers du faubourg d'Orion.
« Il me paraît impossible que ce soit Wang Tai, » affirma la jeune femme.
« C'est ce que nous allons vérifier immédiatement. En sortant d'ici, nous passerons par la banque. » L'instant d'après, le détective et sa cliente prenaient place dans une luxueuse Rolls-Royce de 150 chevaux. Floridor s'était assis au volant et pilotait la voiture avec une dextérité merveilleuse à travers les rues encombrées. L'auto stoppa devant la majestueuse façade de la Central Bank. John Jarvis descendit. Il revint quelques minutes plus tard, la mine dépitée. « Rien à faire de ce côté, » expliqua-t-il. « Il est venu ce matin un Chinois toucher un chèque de 2 500 $, mais il se nomme Ping Fao. On a bien voulu me confier sa photographie que, suivant l'usage de la maison, on a prise sans qu'il s'en aperçût, pendant qu'il attendait à la caisse. La voici. »
« Ce n'est pas Wang Tai, » fit la señora Ovando, en secouant la tête.
« D'ailleurs, il n'a pas quitté la plantation. Je vous le répète, c'est le dernier que je soupçonnerai. »
John Jarvis remit silencieusement la photographie dans son porte-carte et se replongea dans ses réflexions. L'auto avait traversé à toute allure les faubourgs déserts et filait maintenant en quatrième vitesse sur une large route bordée de ces cultures d'arbres fruitiers, orangers, abricotiers, pêchers, qui font de certaines régions de la Californie un véritable paradis terrestre. Partout, les branches pliaient sous le poids des fruits. L'atmosphère lourde du parfum des orangers et des citronniers en fleurs était d'une douceur accablante. Il y avait 10 minutes que l'auto roulait à cette vitesse vertigineuse lorsque Floridor tira de sa poche un numéro du San Francisco Evening News qu'il tendit par-dessus son épaule à John Jarvis en disant
« Voici qui vous concerne. L'entrefilet est souligné. »
Jarvis eut un geste mécontent en lisant en petite capitale, au-dessous d'un portrait d'homme, le titre suivant. « Le mystérieux Todd Marvel, le détective milliardaire disparu depuis 6 mois, notre enquête. » Mais tout de suite, son visage se rasséréna. «
Heureusement, cria-t-il à Floridor, qu'ils n'ont pas la bonne photo. Ça peut durer longtemps. »
Voici ce que contenait l'entrefilet souligné de crayon bleu que John Jarvis lut avec la plus grande attention. On est toujours sans nouvelles de l'honorable Todd Marvel, un des milliardaires les plus distingués de la Société des 500, propriétaire de plusieurs puits à pétrole en Pennsylvanie, et d'immenses gisements de chrome et d'iridium récemment découverts au Guatemala. D'un caractère très original, on peut même dire tout à fait excentrique, M. Todd Marvel, qui est doué d'une puissance de logique extraordinaire, s'est pris de passion pour le métier de détective. Un beau matin, il a quitté son palais de la 5e avenue à New York, et l'on a été quelque temps sans savoir ce qu'il était devenu. 3 semaines après, affublé d'un pseudonyme, il faisait arrêter à Chicago les auteurs du vol d'1 000 000 $. Le retentissement de cette affaire fut énorme. Le détective milliardaire fuit la popularité. Son identité une fois découverte, il a quitté brusquement Chicago, et depuis on est sans nouvelles de lui. Les uns le croient parti pour l'Amérique du Sud, les autres pour l'Europe. L'immense fortune de M. Todd Marvel
ne souffre d'ailleurs aucunement des fantaisies de son propriétaire. Gérée par des fonds de pouvoir d'une scrupuleuse probité, largement rétribuée d'ailleurs, elle va sans cesse en augmentant. Ajoutons que toutes les décisions de quelque importance sont prises par lui, et son habileté dans les tractations les plus délicates est proverbiale dans le monde des affaires. Dans le clan des milliardaires, c'est actuellement l'homme à la mode, le héros du jour. Il a refusé la main des plus opulentes héritières américaines, comme il a refusé les plus flatteuses propositions d'association des trusters les plus en vue. L'engouement pour sa personne atteignait récemment un tel degré que nombre des héritiers des rois de l'or, du pétrole, de l'acier ou de la viande regardaient comme le nec plus ultra du chic et comme le comble du sport l'exercice du métier de policier. Il est très difficile de se procurer un renseignement quelconque sur cet étrange milliardaire. Très généreux, très loyal, et il a su mettre entre sa personne et la curiosité publique un rempart de serviteurs dévoués qu'aucun argument ne peut décider à rompre le silence. Dans le monde des 500, on observe également à son endroit un mutisme rigoureux. Ce n'est qu'à grand-peine que nous avons pu obtenir d'un de ses amis la photographie que nous publions. Dans l'intention d'être agréable à nos lecteurs, que passionne l'énigmatique personnage, nous avons pu mettre à jour un point important jusqu'ici complètement négligé par ses récents biographes. Il y a une vingtaine d'années, le père de M. Todd Marvel fut assassiné dans des circonstances demeurées obscures, et la moitié de son énorme fortune disparut sans laisser de traces en même temps que son assassin. C'est dans ces faits maintenant oubliés, mais qui à l'époque firent grand bruit, qu'il faut peut-être chercher l'explication de l'étrange manie policière de l'élégant gentleman. Cette manie, désormais, ne paraîtra plus aussi excentrique à nos lecteurs. Qu'il s'agisse de venger son père ou de récupérer une fortune volée, ce n'est certainement pas pour l'amour de l'art que M. Todd Marvel s'est improvisé détective. À bientôt de plus complets renseignements. John Jarvis froissa le journal avec colère et le fourra dans la poche de son cache-poussière. Puis il haussa les épaules et sa physionomie reprit sa placidité habituelle. L'auto venait de s'engager dans une allée d'eucalyptus qui aboutissait à la propriété de la Signora Ovando. Chapitre 2. La fazenda des orangers. Niché frileusement au creux d'un vallon que traversait un ruisseau d'eau vive, abrité par de hauts platanes, la fazenda, avec sa toiture de tuiles rouges et ses murs blanchis à la chaux, émergeait d'un véritable bois de citronniers et d'orangers chargés de fleurs et de fruits. Dans un lointain vaporeux, la ligne violette des montagnes s'abaissait jusqu'à la mer où la houle balançait les navires en rade. On devinait la ville, située en contrebas, au dôme de fumée noires ou rousses qui planait au-dessus d'elle et où le soleil faisait palpiter comme une poussière d'or. Malgré la rumeur affaiblie de la ville qui se mariait à la plainte monotone des vagues, on se fût cru en pleine solitude. On eût dit un de ces paysages de rêve que crée, pour d'idéal maîtresse, à l'imagination des poètes. On se sentait pris du désir de ne plus quitter cet Éden embaumé des plus doux et des plus puissants parfums. « N'avions-nous pas tout ce qu'il faut pour être heureux ?» murmura la jeune femme en étouffant un sanglot. Et, silencieusement, elle guida ses hôtes vers la fazenda. Au détour d'un sentier, ils se trouvèrent brusquement en présence du chinois Wang Tai. Le torse à peine couvert d'un sayon de cotonnade bleue, le front en sueur, il était occupé à défoncer une parcelle de terrain rouge et caillouteux qui semblait n'avoir jamais été défrichée. Il se releva au passage des visiteurs et les salua respectueusement. « Rien de nouveau ?» demanda machinalement la seigneur. Le chinois fit de la tête un signe négatif et se remit au travail. Comme l'effigie des vieilles pièces de monnaie usées par le frottement, Wang Tai offrait une physionomie sans expression, comme effacée par la misère et l'abrutissement. Le regard était sans reflet, les lèvres décolorées et molles, la peau d'un jaune sale collée aux pommettes. Les quelconques, absolument insignifiants, dit Floridor quand ils eurent fait quelques pas. Je n'en sais rien, répliqua le détective songeur. Les individus de cette espèce accumulent parfois, dans le silence et la solitude, de formidables réserves de ruse, d'énergie et, ce qui te surprendra, d'intelligence. « Désirez-vous interroger Wang Tai ?» demanda la veuve. « Non, du moins pas maintenant. Il faut qu'avant tout je visite soigneusement l'écurie. La chambre à coucher est, si pénible que soit pour vous une pareille demande, que j'examine de près la blessure qui a causé la mort de votre mari.
« Venez, »
dit-elle stoïquement. Dans la chambre étroite et nue, aux murs blanchis à la chaux, le cadavre, simplement vêtu d'une chemise blanche, gisait sur le lit, un crucifix de cuivre placé sur la poitrine. Les volets étaient fermés. À la lueur de deux bougies placées au chevet du mort, à côté d'une assiette creuse pleine d'eau bénite, la petite Lolita, le visage pâli et comme émacié par le chagrin, lisait un livre de prière. Sa mère lui fit signe de se retirer. Elle demeura elle-même dans un angle de la pièce, pendant que John Jarvis et son secrétaire se livraient à leur examen. La blessure, située derrière l'oreille, était affreuse. Le crâne avait été défoncé et le contour du fer à cheval y était profondément imprimé, encore souligné par le sang qui avait séché dans la plaie. Le détective mesura soigneusement cette empreinte avec une petite règle graduée. John Jarvis ne semblait plus le même. Sa physionomie avait revêtu une expression d'autorité et de domination. Ses gestes étaient nerveux et saccadés. De temps en temps, d'un mot bref ou d'un signe, il donnait à Floridor un ordre que celui-ci exécutait en silence. Tout à coup, les deux hommes, sans plus se préoccuper de la signora que si elle n'existait pas, descendirent au rez-de-chaussée et pénétrèrent dans l'écurie où Nero, oublié, hennissait tristement devant sa mangeoire vide. Sur un signe de John Jarvis, Floridor donna quelques poignées de foin à l'animal, lui caressa l'encolure et finalement lui souleva l'une après l'autre les deux jambes de derrière pour prendre mesure de ses fers. Nero s'était laissé faire avec une docilité exemplaire. Le détective furetait dans tous les coins, examinant longuement les uns après les autres tous les objets qui se trouvaient dans l'écurie. Au grand étonnement de la signora Ovando, qui assistait à cette scène sans rien y comprendre, il s'accroupit près d'un tas de balayures, les tria et en mit de côté une certaine quantité dans un morceau de papier. Puis il plongea ses mains jusqu'au fond d'un baril plein d'avoine, ramassa à terre trois clous tordus qu'il mit soigneusement dans sa poche. Enfin, à l'aide d'une forte loupe, il étudia successivement une hache, une scie, un marteau, un gros maillet de bois destiné à enfoncer les pieux et d'autres outils déposés là pêle-mêle. Il continua longtemps ce manège, retournant 10 fois les mêmes objets, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait pas. Au comble de la surprise, la signora ouvrait la bouche pour demander ce que tout cela signifiait. Floridor lui fit signe de se taire. « Ne le dérangez pas, lui dit-il à l'oreille. Je crois deviner qu'il a trouvé une piste sérieuse. » Le détective venait de passer dans le cabinet où couchait Vangtai et qui était adjacent à l'écurie. Dans ce misérable réduit, il n'y avait qu'un monceau de paille de maïs qui servait de lit aux Chinois, une cruche de terre et de vieilles sandales de paille tressées. L'odeur nauséabonde de l'opium flottait dans l'air. Et, sur une planche, John Jarvis découvrit la petite lampe et la pipe à champignons, indispensables aux fumeurs. À côté, il y avait un paquet renfermant des vêtements de rechange et quelques chemises. À la stupeur croissante de la veuve, John Jarvis prit les sandales et les enveloppa dans un journal pour les emporter. Brusquement, il remonta dans la chambre mortuaire, s'assit à une table et étala dessus avec précaution les détritus retirés par lui des balayures et qui paraissaient de minces rognures de papier rouge. Il déployait avec 1000 précautions chacun des minuscules fragments de la pointe de son canif, puis il les rapprochait, comme s'il voulait reconstituer le lambeau primitif. Ce travail minutieux l'absorba pendant une grande demi-heure. Frémissante d'impatience, la veuve allait et venait par la chambre, jetant de temps à autre un regard de désolation sur le cadavre de son mari. « Signora, » dit tout à coup John Jarvis, dont la voix était empreinte d'une mystérieuse solennité, « ma visite n'aura pas été inutile. Mais il me reste encore une question à vous poser. Ne m'avez-vous pas dit que Vangtai vous confiait ses économies ?»«
Oui, »
balbutia-t-elle. « Nous avons eu longtemps à lui 100 dollars. Ils étaient déposés dans le coffre-fort avec notre argent à nous. Il les a redemandés. » »« Était-il présent quand vous avez ouvert le coffre pour les lui rendre ?»«
Certainement. Il n'y avait aucun inconvénient à cela, puisqu'il ne connaissait pas le mot grâce auquel la porte s'ouvre. »
C'est tout ce que je voulais savoir. Je tiens maintenant l'anneau qui manquait à la chaîne de mes raisonnements. Ah, j'oubliais. Avez-vous quelquefois acheté des médicaments chez Ramlut, le druggiste de Montgomery Street?
Jamais. Nous n'achetions pour ainsi dire pas de produits pharmaceutiques.
Je l'aurais parié. Maintenant, je suis sûre de mon fait.
Signora, ajouta-t-il avec une gravité impressionnante, la main étendue au-dessus du cadavre de Wando.
J'en fais le serment solennel sur le corps de l'innocente victime. Votre mari a été assassiné par le même bandit qui a volé le diamant rouge. Et ce bandit, c'est Vanktai.
Cela se peut-il ?
Murmura la veuve avec un frisson d'horreur. Vous allez en être convaincu comme moi dans un instant. Cela est aussi évident que la clarté du soleil. Tantôt, votre exposé des faits me donna beaucoup à réfléchir. Il me parut presque impossible que la mort de votre mari, survenant presque aussitôt après le vol, fût due à un simple accident.
Pourtant, l'enquête du coroner
n'a pas été faite sérieusement. En examinant la blessure, j'ai tout de suite constaté qu'elle ne pouvait pas, malgré les apparences, avoir été causée par un coup de pied de cheval. Il y a sur le crâne plusieurs traces de fer enchevêtrées, parce que l'assassin a redoublé ses coups, ce qu'un cheval n'eût pu faire. Un cheval qui lance une ruade ne frappe qu'avec l'extrémité aiguë du sabot. Ici, toute la surface du fer était nettement dessinée. Je mesurai le diamètre de la blessure, puis les fers de Nero. Les dimensions ne correspondaient pas. Je ne m'étais donc pas trompée. D'ailleurs, l'animal est très doux. Il m'a paru tout à fait incapable de lancer une ruade.
C'est pourtant vrai que Nero est doux comme un agneau. Alors, vous croyez que ce n'est pas lui ?
Je vous ai dit que c'était Vanktai. J'aurais été bien en peine de deviner comment l'assassin s'y était pris pour commettre son crime, quand en examinant les outils, je me suis aperçue que le lourd maillet de bois, qui sert à enfoncer les pieux, était percé de 3 trous disposés en triangle. Peu après, j'ai ramassé 3 clous, qui s'adaptaient exactement dans ces trous. L'assassin avait eu l'idée infernale de clouer un fer à cheval sur le maillet, dont il s'est servi pour assommer sa victime. Comprenez-vous maintenant ?
Sainte Vierge ! Peut-il exister de pareils coquins ?
S'écria la veuve avec épouvante. Il ne m'est plus resté aucun doute après avoir comparé le diamètre de la blessure avec celui de l'espace compris entre les trous. Je n'ai pas retrouvé le fer à cheval que l'assassin fait disparaître, croyant ainsi avoir détruit tout vestige de son crime. Il a aussi lavé avec grand soin le maillet qui devait porter des traces de sang. Le détective montra alors les rognures de papier rouge trouvées par lui dans les balayures. À leur couleur caractéristique, reprit-il, j'ai tout de suite reconnu que ces minuscules fragments provenaient d'une de ces étiquettes que les pharmaciens collent sur les flacons renfermant des produits toxiques. La forme des fragments m'a révélé que l'étiquette avait été grattée. De là à supposer que Vanktai avait acheté un anesthésique pour vous réduire à l'impuissance pendant la nuit du vol, il n'y avait qu'un pas. Il me sera d'ailleurs bien facile de savoir si un Chinois n'est pas venu demander du chloroforme au druggist Ramlut quelques jours avant le vol, c'est-à-dire après que Vanktai vous eut redemandé ses économies. La señora Ovando demeurait silencieuse et regardait le détective avec une admiration où se mêlait une secrète terreur. Voici selon moi, continua-t-il, comment les choses se sont passées. Très habilement, Vanktai a choisi pour faire son coup une nuit où la resserre était pleine de fruits. Il n'ignorait pas que le puissant parfum des terres des oranges a une certaine analogie avec l'odeur du chloroforme. La petite Lolita seule était dans le vrai, en se plaignant d'une odeur de pharmacie, odeur qui devait pourtant être très atténuée, puisque l'assassin avait pris soin, le vol une fois commis, d'ouvrir la fenêtre pour renouveler l'atmosphère de la chambre.
« Vous ne me dites toujours pas, » objecta la veuve, « comment il a pu ouvrir le coffre-fort ?»«
Quand le système n'est pas plus compliqué que celui-ci, ce n'est pas difficile. C'est une question de doigté et d'oreille. Les voleurs, et surtout les voleurs chinois, n'ont pas besoin d'outils pour cela. Voyez plutôt. » John Jarvis s'était approché du coffre-fort et il en manœuvrait les boutons, tantôt avec une savante lenteur, tantôt avec une grande rapidité, l'oreille tendue aux bruits imperceptibles qui se produisait dans l'intérieur du mécanisme.
« Tenez, dit-il, voilà qui est fait.
Ne vous l'avais-je pas dit ?» s'écria orgueilleusement Floridor.
« Je le répète, il n'y a pas dans tout l'univers d'homme plus habile que John Jarvis. »
La señora Ovando demeurait béate de surprise en considérant la porte d'acier maintenant ouverte toute grande.
« Ce que je ne comprends pas, par exemple, reprit le détective après un silence, c'est que Van Tai n'ait pas pris la fuite après le vol et qu'il ait, somme toute, commis un meurtre inutile. Cela ne s'expliquerait, pardonnez-moi, Signora, de faire une pareille supposition, que si le Chinois eût été amoureux de vous.
C'est ce que prétendait mon pauvre mari,
balbutia la veuve, dont les joues s'empourprèrent.
Combien de fois m'a-t-il dit en riant, tu vois, si je venais à mourir, tu aurais un époux tout trouvé, le mandarin Wang Tai.
De fait, il était aux petits soins pour moi. Ses prévenances, ses attentions, étaient un éternel sujet de plaisanterie entre nous. Il m'était dévoué comme un bon chien. C'est peut-être pour cela qu'il ne me serait pas venu à l'idée qu'il pût être coupable. Sauf l'habitude qu'il avait de s'enfermer chaque dimanche pour fumer l'opium, c'était un serviteur parfait.
On rencontre beaucoup de criminels, expliqua Floridor, parmi ceux qui s'adonnent à cette drogue. Chez eux, à des périodes de dépression et d'abrutissement, succèdent des phases de lucidité suraiguë, au cours desquelles ils élaborent les plus machiavéliques combinaisons.
Priez la petite Lolita d'aller chercher Van Tai, interrompit le détective. Il faut que le coquin fasse des aveux et dise où il a caché le diamant et l'argent. Il doit être d'autant moins sur ses gardes que nous ne lui avons encore posé aucune question.
L'enfant revint tout essoufflé au bout d'un long quart d'heure. Le Chinois demeurait introuvable.
« M'en voudrais toute ma vie de cette maladresse !» s'écria Jarvis avec dépit. « A dû nous espionner à l'abri de quelques massifs. J'aurais dû charger Floridor de le surveiller. »«
Où le retrouver ?» balbutia la veuve avec accablement.
« Ne vous désolez pas. Je fais de la capture de ce bandit une affaire personnelle. Il faut d'abord voir s'il s'est réellement enfui. »
Le détective courut à la cahute du Chinois. D'un coup d'œil, il constata que le paquet de vêtements et la pipe avaient disparu. Mais une autre surprise l'attendait. En traversant l'écurie, il s'aperçut qu'on avait éventré d'un coup de couteau le collier de cuir que portait Nero. La bourre sortait par l'ouverture béante.
« C'est là, sans doute, s'écria-t-il, que Van Tai avait caché les banknotes, roulées et aplaties dans le sens de la longueur. Il a repris son butin avant de s'enfuir. »
« Le diamant ne se trouvait même pas dans la cachette, » fit observer Floridor. « Il n'y aurait pas retenu. »
« Le bandit a dû gagner le chemin creux qui rejoint la grande route de San Francisco, » dit la Signora Ovando.
« Voyons d'abord où nous conduirons les traces de pas qui partent de l'écurie. »
La terre du jardin, fraîchement arrosée, gardait heureusement des empreintes très nettes. Mais le détective eut la surprise de voir que les traces de pas prenaient une direction diamétralement opposée à celle qu'indiquait la Signora. En les suivant, il arriva au pied d'un superbe citronnier, et machinalement, il ramassa un fruit encore vert à demi enfoncé dans la terre molle. Il allait le rejeter, lorsqu'en l'examinant de plus près, il poussa un cri de surprise.
« Admirez, fit-il, l'astuce vraiment chinoise de Van Tai. Sans détacher le citron de l'arbre, il a coupé une rondelle dans l'écorce, creusé la pulpe du fruit pour donner place au diamant. La rondelle, une fois rajustée, il n'y paraissait plus. Le moindre détail est calculé. Ainsi, il a choisi un citron vert plus solide sur sa branche que ceux qui arrivent à maturité et qui pouvaient rester longtemps encore sans être cueillis. Dans sa précipitation à reprendre son butin avant de fuir, il n'a pas songé que ce fruit, que je garde précieusement, pouvait devenir une pièce à conviction. »
En partant du citronnier, les traces de pas revenaient dans la direction indiquée par la Signora et aboutissaient au chemin creux. On suivit cette piste jusqu'à la route où elle disparaissait, confondue avec des milliers d'autres pistes.
« Nous allons vous quitter, Signora, » déclara le détective. « Les minutes sont précieuses. L'assassin n'a guère qu'une heure et demie d'avance sur nous. Il s'agit de lui mettre la main au collet avant qu'il ait eu le temps de prendre passage à bord d'un paquebot.
« Reste-t-il quelque chance de retrouver l'argent volé ?»
demanda la veuve avec découragement.
« Ayez bon espoir, » affirma John Jarvis avec conviction. « Je connais à fond la ville chinoise et j'ai mené à bien des tâches plus difficiles. »
Les deux détectives avaient pris place dans l'auto qui démarra. En se retournant, à l'extrémité de l'avenue d'Eucalyptus, John Jarvis aperçut la Signora demeurée à la même place, immobile et pensive. Sa silhouette mélancolique se détachait toute noire sur le ciel rouge du couchant, dont les derniers rayons caressaient d'un reflet sanglant la cime des orangers. L'auto filait à vive allure sur la route, où déjà tombait la nuit, lorsque Floridor freina brusquement. À 50 mètres de la voiture, un groupe confus barrait le chemin qui, à cet endroit, coupait à angle droit la voie du Transcontinental Pacific Railway. Sous la lueur aveuglante des phares,
une tragique vision jaillit des ténèbres. Cinq hommes aux longues barbes, aux vêtements terreux, qui paraissaient être des travailleurs des plantations, étaient occupés à fouiller les vêtements d'un cadavre horriblement déchiqueté, dont la tête, qui ne formait plus qu'une bouillie sanglante, reposait encore sur un des rails de la voie.
« Un Chinois qui est écrasé par le rapide, » expliqua tranquillement un des hommes. « Ce doit être un suicide. Il n'avait plus un dollar en poche. »
John Jarvis avait sauté à terre, en proie à une indicible émotion. Il venait de reconnaître, baignant dans le sang qui avait formé une mare autour du corps, la vieille pipe à opium et le paquet de vêtements de Van Tye.
Si ça vous intéresse, dit complaisamment l'homme, voilà ses papiers, c'est tout ce que nous avons trouvé.
Le détective prit le portefeuille taché de sang qu'on lui tendait. Il renfermait un passeport chinois et un permis de séjour en anglais au nom de Van Tye, ouvrier agricole au service de Leoncio Vando, à la fazenda des Orangers. Alors, qu'était devenu le diamant et les banknotes? John Jarvis éprouvait une horrible déconvenue. Un des hommes s'était-il subrepticement approprié la pierre précieuse ou fallait-il la rechercher dans cette boue sanglante? Ou bien... Il fut tiré de cette perplexité par Floridor qui venait de descendre de l'auto.
« Ce n'est pas là le cadavre de notre bandit, » affirma le géant blond avec énergie. « Pas aussi vrai que je suis canadien. » Van Tye était beaucoup plus petit de taille, puis sa blouse de cotonnade bleue était d'un ton beaucoup moins cru. D'ailleurs, nous avons un moyen bien simple d'éclaircir nos doutes.
Floridor alla prendre dans la voiture les sandales de paille trouvées dans le logement du Chinois et que Jarvis avait conservées. Les sandales étaient beaucoup trop petites pour chausser les pieds du mort.
« Tu as raison, dit le détective. Ce Van Tye est un scélérat encore plus rusé que nous pensions. Il n'a pas hésité à assassiner un de ses compatriotes. Il l'a déposé sur les rails de façon à ce que le visage fût broyé, méconnaissable. Et il a laissé bien en évidence les papiers et la pipe pour donner le change.
Une autre découverte, d'ailleurs, confirma cette hypothèse. À la hauteur du sein gauche, le défunt portait une blessure qui ne pouvait avoir été produite que par une balle de revolver. Les témoins de cette scène regardaient avec stupeur ces deux gentlemen si corrects, possesseurs d'une si luxueuse auto et qui paraissaient prendre tant d'intérêt à la mort d'un vulgaire chinois. Ils furent encore plus surpris quand le détective leur remit $50 qu'ils se partageraient à condition de porter le cadavre jusqu'à la station qui n'était éloignée que d'un quart de mille. Pendant qu'heureux de cette aubaine, ils se dispersaient pour se mettre en quête d'une civière, John Jarvis et Floridor remontaient en voiture et se remettaient en route. Sans attirer l'attention, le détective avait glissé dans sa poche le portefeuille de Van Tye.
Chapitre 3. Dans les cryptes de l'opium. Minuit venait de sonner à la grande horloge électrique de la Central Bank lorsque John Jarvis et son dévoué secrétaire, le Canadien-Français Floridor Kennel, pénétrèrent dans le quartier chinois dont les ruelles sordides éclairées de loin en loin par des lanternes de papier exhalaient les parfums du musc, de l'opium et du gingembre mêlés à la révoltante puanteur d'immondices de toutes sortes. Il venait de s'arrêter devant la façade à peine éclairée d'une maison de thé, à l'enseigne de la tour de porcelaine, lorsqu'un noir dépenaillé surgit d'un angle sombre, remit un papier plié en quatre au détective et disparut sans avoir prononcé une parole. John Jarvis, sans manifester aucune surprise de ce message que sans doute il attendait, déployait le papier et lut à la clarté de sa lampe électrique de poche « Le cadavre du Chinois a été reconnu par son frère et identifié. C'est celui d'un coolie nommé Ping Fao qui avait touché le matin même une somme importante. »«
C'est certainement l'homme que j'ai vu ce matin à la banque, » déclara Floridor. « L'affaire s'embrouille de plus en plus. »«
Il me semble à moi, au contraire, que nous sommes bien prêts d'en tenir la solution. » John Jarvis tambourina d'une certaine façon à une petite porte, dit quelques paroles à l'oreille du boy qui vint ouvrir et fut introduit dans un long couloir ténébreux à l'extrémité duquel brillait une faible lumière. À la suite du boy, les deux détectives descendirent un escalier d'une trentaine de marches et traversèrent une cave encombrée de caisses et de tonneaux. Une lourde porte roula sur ses gonds en même temps que l'âcre odeur de l'opium les prenait à la gorge. Il se trouvait dans une vaste salle, entièrement tendue d'une étoffe rouge, et dont le fond était divisé en boxes, munies de matelas, qui permettaient aux fumeurs de s'isoler. Des lanternes de papier bleu et vert jetaient une clarté indécise. Elles avaient la forme de poissons fantastiques qui semblaient nager dans l'atmosphère épaisse et surchauffée. Près de l'entrée, une sorte de poussa au sourire facétieux, aux yeux fendus en tirelire, se tenait à un comptoir encombré de pipes, de petites lampes et de boîtes de métal. Ce personnage, qui connaissait parfaitement le détective, le salua d'une profonde révérence.
« Vos illustres seigneuries, dit-il avec toute l'emphase de la politesse chinoise, désirent sans doute goûter aux incomparables voluptés de l'opium. Elles ne pouvaient choisir une meilleure occasion. Je viens précisément de recevoir des Indes une quantité de qualité supérieure, digne de la pipe d'un mandarin.
Nous ne sommes pas venus pour cela, vieux filou, déclara Jarvis d'un ton bref, mais pour voir s'il n'y a pas dans ta caverne un assassin que nous cherchons.
Il ne vient ici que des personnes parfaitement honorables, répliqua le Chinois avec une feinte indignation. La fleur de la colonie chinoise. Ce n'est certainement pas ici que vos nobles seigneuries trouveront le bandit qu'elles cherchent.
C'est ce que nous allons voir. Sans vouloir en entendre davantage, le détective s'était dirigé vers le fond de la salle et lentement, comme s'il eût cherché une place vide, il examinait avec attention les occupants de chacun des boxes. Beaucoup, les yeux blancs, la face plombée, gisaient assommés par la drogue. D'autres étaient si absorbés par le soin de préparer leur pipe qu'ils ne s'aperçurent même pas de la présence de John Jarvis. Celui-ci était arrivé jusqu'au bout de la rangée sans découvrir celui qu'il cherchait. Il allait recommencer son examen en revenant sur ses pas, quand un fumeur vêtu d'un complet neuf à carreaux, coiffé d'un chapeau mou et les yeux protégés par de vastes lunettes fumées, se leva en titubant et se dirigea vers le comptoir en passant habilement derrière le détective. Il cherchait visiblement à gagner la porte de sortie, mais il renonça à son projet à la vue de Floridor qui lui barrait le passage et il revint vers le fond de la salle. Là, il se trouva face à face avec John Jarvis. « Vantai !» Et d'une formidable tape, le détective faisait voler au loin le chapeau et les lunettes qui servaient de déguisement à l'assassin. Le visage du Chinois n'avait plus ce masque de stupidité qui avait si longtemps fait illusion à la Señora Ovando. Il était illuminé d'une ruse et d'une méchanceté infernale. Se voyant découvert, il avait fait un bond formidable vers la partie la plus obscure de la salle. Tournant le dos à son adversaire, il fouilla dans sa poche en même temps qu'il baissait la tête avec un geste bizarre. « Haut les mains !» cria le détective qui crut que le bandit cherchait une arme. Mais au moment même, un coup de feu partit d'un des boxes atteignit Vangtai à la tempe. Le misérable pivota sur lui-même, battit l'air de ses bras et roula à terre, raide mort. Instantanément, toutes les lumières s'étaient éteintes. La fumerie s'emplissait d'une rumeur de bousculades et de cris étouffés. « Je suis vengé !» cria une voix dans les ténèbres. Rapidement, le détective avait manœuvré le commutateur de sa lampe de poche. Il ne voulait pas que les malandrins qui l'entouraient profitassent de l'obscurité pour dépouiller le cadavre. Mais déjà, la lumière était revenue, montrant la salle souterraine à peu près vide. Au bruit de la détonation, tous les fumeurs que l'ivresse ne clouait pas sur leurs matelas, pareils à de vivants cadavres, s'étaient enfuis par un passage secret que Vangtai, sans doute, n'eût pas manqué d'utiliser s'il n'avait pas été surpris aussi inopinément. Son meurtrier avait fui avec les autres. Immobile à son comptoir, le poussa grimaçait un sourire. John Jarvis trouva dans les poches du mort 5 500 $, les 3 000 d'Ovando et les 2 500 de Ping Fao. Quant au diamant rouge, il avait disparu. Le poussa se répandait en protestations et en doléances.
Pourquoi ? Lui demanda sévèrement John Jarvis. « As-tu éteint l'électricité ? Je pourrais te faire arrêter, comme le complice de l'assassin dont tu as favorisé la fuite. »«
Ce n'est pas moi qui ai éteint, » pleurnicha hypocritement le rusé chinois.
« Tous les habitués savent où se trouve la minuterie. La même scène se reproduit chaque fois qu'il y a quelqu'un de tué ici. Puis, à cause de la police, je suis bien obligé d'avoir une sortie dérobée. Sans cela, personne ne viendrait chez moi. Ah, Si vos seigneuries m'avaient prévenu de leur visite, il en eût été tout autrement. Vanktai eût été capturé sans coup férir.
Tu te moques de moi. Ta cave est un coupe-gorge, et tu es un impudent coquin qui reçoit l'argent de la police et celui des malfaiteurs, et qui trahit tout le monde. Mais il suffit. Pour le moment, ce cadavre est sous ta garde. Je vais revenir d'ici peu avec le coroner et des policemen.
Comme les deux détectives regagnaient la rue éclairée par le boy qui les avait introduits.
« Il nous faut maintenant, » dit John Jarvis soucieux, « savoir ce qu'est devenu le diamant rouge. »
Le boy, un malicieux petit singe d'une douzaine d'années, l'avait entendu.
« Si vous me donnez $10, » fit-il, « je vous dirai où il est. »«
Où est-il ? » ?»«
Aurais-je les $10 ?»«
Oui, mais si tu as menti, je t'allongerai les oreilles de telle façon que tu t'en souviendras toute ta vie. »«
Eh bien, au moment où Vanktai s'est tourné vers le mur, je l'ai vu avaler quelque chose de brillant. »
Et, ajouta-t-il après un moment d'hésitation,
« le patron l'a vu aussi, et il s'est mis à rire. Vous comprenez ce que cela signifie ? Surtout ne parlez pas de moi. Dites que c'est votre ami qui vous a prévenu. »
C'est compris. Tiens, voilà tes $10. Tu es bien le plus rusé petit sapajou que j'ai jamais vu. »
Après avoir laissé s'écouler un certain temps, John Jarvis et Floridor redescendirent dans la crypte. Le Poussa parut assez peu satisfait de les voir si promptement de retour. Mais sans se préoccuper de lui, le détective s'était agenouillé près du cadavre dont il défaisait les vêtements. Mais bientôt, il se releva la mine furieuse.
« Qu'est-ce que cela signifie ? » s'écria-t-il. « Voici maintenant que Vanktai a l'estomac fendu d'un coup de couteau. »«
Je ne sais, » bégaya le chinois devenu livide. « Sans doute, dans les ténèbres, quelqu'un... »«
Allons !» fit brutalement le détective. « Inutile de mentir. Donne-nous le diamant tout de suite, ou tu vas aller finir ta nuit en prison. »
Et comme le chinois paraissait hésiter. « Tu sais que rien ne me serait plus facile que de te faire asseoir dans le fauteuil d'électrocution. » Avec un profond soupir, le Poussa se décida, cette fois, à tirer le diamant rouge d'une petite boîte à opium où il l'avait caché et le tendit à John Jarvis.
« Bonne affaire heureusement terminée, » dit Floridor en riant de la mine déconfite du chinois. « Il ne nous reste plus qu'à aller chercher le coroner pour l'enquête. »
« Pas encore, » reprit John Jarvis. « Il faut que cette affaire soit complètement élucidée. »
« Il me semble qu'elle l'est, » murmura le chinois.
« Non, car je ne connais ni le nom de l'assassin de Vanktai, ni les mobiles qui l'ont fait agir.
Je ne sais rien à ce sujet.
Il est inutile d'essayer de me tromper. Je n'ignore pas que tu es l'homme le mieux renseigné peut-être de la communauté chinoise sur les agissements de tes compatriotes.
Votre seigneurie commet une erreur absolue. Je suis absorbée par le souci de mon modeste négoce et je ne m'occupe de personne. Je ne sais rien, je le jure. »
La physionomie du Poussa était devenue impassible et fermée. Il ne répondit plus aux questions et aux menaces que par des monosyllabes. Il paraissait décidé à ne pas parler et John Jarvis se disposait à se retirer lorsque Floridor intervint.
« Je sais le bot blesse, vieux marchand de poison, » lui dit-il.
« Je connais fort bien le nom de l'assassin.
La preuve que c'est un de tes clients habituels, c'est qu'il était parfaitement au courant du secret de la porte dérobée.
Pourquoi ne vous le dirais-je, ce nom, si je le connaissais ? Fit le chinois d'un air plein de candeur.
Je serais trop heureux d'être agréable à vos illustres seigneuries.
Pourquoi ? Parce que tu as peur de perdre la prime que te donne la police chaque fois que tu fais arrêter un malfaiteur. Tu crains d'être devancé par nous dans ta dénonciation. Sois franc, combien donne-t-on par arrestation ?
$20, dit le chinois, dont les petits yeux bridés s'éclairèrent d'une lueur d'astuce.
« Voici $20. C'est probablement le double de ce qu'on donne. Maintenant, parle. »
« J'ai des raisons de croire que le coupable est un certain Tao, le frère de Ping Fao, l'homme assassiné par Vanktai. Il a vengé son frère comme il l'avait juré. »
Le Poussa s'interrompit au bruit d'une porte qui venait de se refermer doucement. John Jarvis et Floridor se retournèrent. Le cadavre de Vanktai avait disparu.
Deux de mes boys viennent de le déposer dans la rue, expliqua le marchand d'opium. Les policemen le trouveront demain matin. Supposeront qu'il a été tué dans une rixe et tout sera dit. Cette manière de faire simplifie beaucoup les choses.
Les deux détectives avaient hâte d'être sortis de ce coupe-gorge. Ils en finirent rapidement avec l'interrogatoire du Poussa et se retirèrent. Ce fut avec un véritable soulagement qu'ils se retrouvèrent dans la rue et qu'ils respirèrent l'air pur de la nuit.
Le lendemain, vers 10 heures, un des immenses clippers à voile qui font le service entre San Francisco et les ports de la côte chinoise commençait ses préparatifs d'appareillage et embarquait ses dernières tonnes de marchandises. Massés sur le quai, une centaine de célestes, qui retournaient dans leur pays, attendaient patiemment sous la surveillance de 2 policemen que leur tour fut venu de monter à bord. Avant de franchir la passerelle, ils devaient montrer leur passeport à un employé de bureau de l'émigration, qui y apposait son cachet. Un autre commis faisait l'appel des noms. Près d'eux, un élégant gentleman en costume de yachting fumait nonchalamment une cigarette. « Tao !» cria le commis. Un Chinois, vêtu de loques sordides, mais à la mine intelligente, sortit de la foule et présenta ses papiers. L'employé venait d'y apposer son timbre, lorsque le yachtman, qui n'était autre que John Jarvis, lui dit quelques mots à l'oreille. « Parfaitement, » répondit l'homme, et se tournant vers le Chinois. « Tao, ce gentleman veut te parler. » « Oui, » murmura John Jarvis, « j'ai quelque chose à te dire. » Tao, sous les regards du détective, était devenu blême. Ses mains tremblaient. Du premier coup d'œil, il avait reconnu un des témoins du meurtre de Wang Tai à la fumerie d'opium de la tour de porcelaine. Il s'imagina qu'il était perdu. Mais avec la prudence et le sang-froid de ceux de sa race, il attendit en silence que son interlocuteur prît la parole le premier. John Jarvis l'avait attiré un peu à l'écart. « Tao, » lui dit-il à demi-voix, « j'étais présent quand pour venger ton frère tu as tué Wang Tai. » « Je le devais !» balbutia le Chinois, dominé par le regard impérieux du détective. Il ajouta d'un ton si désespéré et si douloureux que John Jarvis en fut ému. « J'allais regagner ma patrie !»« Je n'appartiens pas à la police officielle. Je n'ai aucune raison de te dénoncer. Mais je veux connaître toutes les circonstances du crime. » « Je n'oublierai rien, » dit Tao avec un reste de défiance. « Wang Tai et mon frère travaillaient dans 2 plantations voisines et avaient fini par faire connaissance. Wang Tai, plus énergique, dominait complètement mon frère et j'en étais sincèrement affligée, car je savais que Wang Tai avait dû s'expatrier à la suite de plusieurs meurtres et je devinais qu'il en voulait surtout aux économies de son ami. C'est sur mon conseil que celui-ci les avait déposées à la banque, en même temps que les miennes. Nous devions retourner en Chine ensemble, après avoir passé de compagnie à San Francisco notre dernière nuit de séjour en Amérique. Jugez de ma douleur et de ma colère quand, en allant au-devant de mon frère, on me mit en face de son cadavre, que Wang Tai avait muni de ses propres papiers. Ce fut ce qui le perdit. Je jurai de tuer l'assassin. Je savais qu'il avait déposé une somme assez importante entre les mains du tenancier de la fumerie à la tour de porcelaine. Et je supposais qu'il irait lui réclamer cet argent avant de partir. J'allais l'attendre à la fumerie pendant toute la soirée et une partie de la nuit. Enfin, il entra, et j'eus la chance de n'être pas reconnu par lui. J'aurais voulu qu'il sortît afin de le suivre et de le tuer sans éveiller les soupçons. C'est à ce moment que votre arrivée et celle de votre ami changèrent mes projets. Je pensais que la police allait faire une rafle. Ma vengeance m'échappait. Je n'hésitais plus. J'abattis le meurtrier de mon frère et je pris la fuite. J'ai perdu dans cette aventure les banknotes que le pauvre Ping Fao avait si péniblement économisées sou à sou. John Jarvis réfléchit un instant. « Voici l'héritage de ton frère, » dit-il enfin, en glissant à Tao une liasse de banknotes. « Les $2,500 trouvés dans la poche de l'assassin t'appartiennent légitimement. Et maintenant, tu es libre de t'embarquer. » D'un geste, le détective coupa court aux révérences et aux remerciements du Chinois. Et celui-ci se hâta de monter à bord. Déjà, les passerelles étaient retirées et les amarres ramenées à bord. Puis, les immenses voiles furent déployées. Le pavillon étoilé fut hissé à la corne d'Artimon. Et le clipper, favorisé par la brise du sud-ouest, qui fraîchissait à mesure que le navire s'éloignait du rivage, s'incla majestueusement vers la haute mer. Bientôt, ce ne fut plus qu'un nuage blanc au bas de l'horizon. En revenant de l'inhumation de son mari, la señora Ovando avait reçu la visite de Floridor, qui lui avait remis les $3,000 et le diamant rouge. Le détective ne voulut accepter en guise d'honoraire qu'un panier des magnifiques oranges de la fazenda.